On se trouve à la Part des Anges en compagnie de Juliette Rousseau. Tu es journaliste, éditrice, autrice et récemment tu as traduit « Joie militante, construire des luttes en prise avec leur monde » de Carla Bergman et Nick Montgomery. C'est le livre que tu présenteras tout à l'heure à la Part des Anges. Mais auparavant, tu avais écrit « Lutter ensemble pour de nouvelles complicités politiques » sous la forme d'une enquête et d'entretien interrogeant les rapports de domination au sein des espaces de lutte. Les milieux de lutte recouvrent plein de réalités. Toi, ton combat s'articule principalement autour du féminisme, de l'antiracisme et de l'écologie. Mais avec tes mots, comment présentes-tu ton espace de lutte ?
Je suis bien embêtée de le présenter, d'autant qu'avec le temps, j'ai l'impression que ma grille de lecture s'est nourrie d'autres analyses, de comprendre la nécessité d'autres terrains de lutte qui n'étaient pas forcément les miens. Donc aujourd'hui, j'aurais un petit peu du mal à le définir et pas très envie de le faire non plus. J'ai l'impression que c'est important pour moi d'avoir des mots précis sur des choses précises, mais j'ai un petit peu du mal avec les étiquettes. Peut-être pour le dire, pour essayer de le dire d'une certaine façon, aujourd'hui, c'est vraiment à travers les textes que j'écris et aussi les textes qu'on publie en tant que maison d'édition et les articles que j'écris en tant que journaliste. En tout cas, c'est à travers les textes que j'essaie de transformer le monde à un endroit où, pendant longtemps, j'ai essayé de le transformer au sein d'espaces de lutte, on va dire.
Et le livre que tu as traduit porte sur la joie dans les milieux militants. Je cite un extrait, « Nous avons choisi de placer la joie et le militantisme ensemble dans le but de penser les liens entre détermination et amour, résistance et soins, combativité et régénération. » Et toi, comment rends-tu ton militantisme joyeux ? Quelle place a la joie dans ton militantisme ?
Je pense que si j'ai vraiment eu envie de traduire le livre, c'est parce que je me suis retrouvée un moment dans ma vie à plus trop savoir où était la joie ni comment la faire arriver. Je dirais que dans l'ensemble, pour moi, c'est vraiment, ça passe par les attachements, par le paysage relationnel dans lequel je suis aujourd'hui, que ce soit des attachements dans des relations avec d'autres personnes, d'autres êtres humains, mais aussi le territoire non humain dans lequel j'habite. Et que la joie, elle vient de la capacité à habiter ces relations et de ce qu'elles produisent dans ma vie.
Et c'est ce sujet pointu justement qui est abordé dans le livre et je me demandais, ce sujet-là, il peut paraître compliqué au premier abord, la joie dans les milieux militants, mais toi, comment voudrais-tu présenter ce livre pour donner envie à chacun et chacune de s'y retrouver ?
Je pense que Joie militante, c'est un livre qui, à la différence d'une majeure partie des livres qui sont écrits et publiés aujourd'hui autour des questions liées à la transformation du monde, Joie militante n'est pas un livre de théorie qui nous dit ce qu'il faudrait faire, c'est un livre qui vient interroger ce que lutter nous fait et comment lutter peut être une façon de vivre plus pleinement, individuellement et collectivement, et comment lutter peut, ici et maintenant, ouvrir des espaces de subversion, des brèches dans le système que l'on combat. Mais ça n'est absolument pas ni un manuel, ni une démonstration théorique de la façon dont il faudrait analyser le monde, par exemple. C'est vraiment une tentative d'attraper, de comprendre qu'est-ce que les luttes nous font.
Entre avant et après la traduction du livre, est-ce que tu ressens les choses différemment ? Ça t'a permis aussi d'évoluer sur ta position dans les milieux militants ?
Oui, énormément. Énormément. Je pense que ce livre fait vraiment partie des livres qui m'ont le plus nourri ces dernières années. Et je pense que ça m'a permis aussi de réévaluer qu'est-ce que je considère comme étant politique dans ma vie et comment est-ce que je m'inscris, comment est-ce que j'inscris ma vie de façon plus pleine dans une perspective de transformation. Et je pense, en dehors des cadres peut-être très, très rigides dans lesquels j'imaginais arriver la transformation jusque-là. Donc oui, ça a changé beaucoup de choses pour moi, ce livre, ça c'est sûr.
Et justement, ce travail de traduction était essentiel, mais comment personnellement tu abordes ton travail de traductrice ? Est-ce que tu dirais que ton envie de traduire est partie d'un constat ? Tu sentais qu'il y avait un manque de visibilité, de référence, de représentation ?
En fait, je crois que ça commence pour moi avec l'écriture donc de mon livre « Lutter ensemble » et l'enquête autour de l'enquête avant l'écriture en fait, d'abord l'enquête autour de « Lutter ensemble » et le fait que j'ai peut-être encore plus qu'avant, parce que j'ai pas commencé à ce moment-là, mais peut-être encore plus qu'avant, je suis allée rechercher des ressources dans d'autres pays, et notamment dans des écrits en langue anglaise. Et je crois que du coup, donc c'est dans ce cadre-là que j'ai découvert Lutter Ensemble, Joie Militante. C'est dans l'écriture de Lutter Ensemble que j'ai découvert le texte de Joie Militante. Et il m'a semblé que c'était une façon d'aborder les choses qui était inexistante en France. On n'avait pas l'habitude de les aborder de cette façon-là. Et qu'on avait vraiment besoin, pour le coup, de ce texte dans le contexte français. Donc, moi, en fait, je ne suis pas traductrice de formation. Je suis avant tout militante et j'ai fait beaucoup de traductions dans le cadre de mes activités militantes parce que j'ai longtemps milité dans des espaces transnationaux. La traduction, c'est un outil pour moi, comme l'est le journalisme, comme l'est l'écriture d'un essai. C'est un outil parmi plein d'autres pour réussir à faire exister dans le contexte français des idées et des analyses et des approches du monde qui me paraissent pouvoir nous apporter quelque chose, quoi. Voilà.
Et si on revient un peu en arrière et qu'on fait ton parcours de militante, tu as débuté en tant que syndicaliste étudiante, puis tu t'es intéressée à différents terrains de lutte, l'altermondialisme, le féminisme, la justice climatique, sur lesquels tu as écrit des articles et un livre. Mais ton travail ne se résume pas à la réflexion. Tu agis également sur le terrain. Tu as été coordinatrice et porte-parole de la coalition Climat 2021 à la COP21. Et tu t'es engagée à l'IPAM, le réseau Initiative pour un autre monde. En alliant la recherche et l'action, comment penses-tu que ces deux phases de ton travail t'apprennent des choses différentes? Comment s'alimentent-elles entre elles?
Je me suis toujours méfiée d'une posture qui consisterait à être purement dans la recherche. Et d'ailleurs, j'ai pas cherché à faire de carrière dans la recherche, même si à un moment donné, ça aurait pu être une possibilité comme plutôt en tant que source de revenus, en fait, hein, parce que concrètement, il faut vivre. Mais c'est typiquement, en tant que militante, quand je croisais des chercheurs et des chercheuses qui travaillaient sur les mouvements de lutte, il y avait toujours ce questionnement-là pour moi de quelle porosité il y a et de me rendre compte qu'à plein d'endroits, il y en a très peu. Et surtout, est-ce que la recherche, et je pense que pour moi, c'est ça le point de départ, c'est est-ce que la recherche sert à l'action? Et en retour, l'action vient de toute façon alimenter la recherche. Il n'y a pas de recherche s'il n'y a pas d'action. Mais est-ce que la recherche, telle qu'elle est construite et telle qu'elle se transmet ensuite, elle vient servir l'action? Et donc pour moi, ça, c'est vraiment une question en continu parce que, et je ne dis pas du tout que j'arrive à le faire très bien, je pense que plutôt j'arrive pas toujours à le faire très bien, mais pour moi, vraiment, il y a cet enjeu de réfléchir tout ce que je fais en tant que, à titre de recherche, tout ce que je vais produire d'une façon qui soit, idéalement, qui soit des outils accessibles, en fait, qui soit des outils qui viennent servir les gens, voilà. Et donc, souvent, la recherche, quand elle est circonscrite au milieu universitaire, académique, en fait, elle n'a pas cette fonction. Elle est même jamais pensée en tant que telle. Donc, pour moi, il y a vraiment cette... Encore une fois, cette idée de la construction d'outils, en fait.
Et la recherche aussi, pour certains et certaines, ça peut faire peur. Donc le fait d'être engagé sur le terrain, ça apporte autre chose. Le sujet, on le vit aussi, parce que quand on reste dans la recherche, on lit des écrits, mais on ressent peut-être pas les choses. Est-ce que le fait d'être sur le terrain, parfois, t'a amené à changer de regard sur d'autres sujets?
Complètement. Je pense que, en fait, le terrain est beaucoup plus transformateur que la recherche en elle-même. Ça, c'est sûr. Pour moi, la recherche, c'est une forme de distribution des privilèges. Parce que pouvoir faire de la recherche, ça implique d'avoir les outils. Donc souvent, ça implique d'avoir eu une formation très souvent universitaire. On peut en faire sans avoir eu de formation universitaire, mais ça implique d'avoir eu une formation, ça implique d'avoir du temps. Et c'est bien toute la question, c'est qu'en fait, si on fait de la recherche dans un cadre universitaire, on a le temps parce qu'on est financé pour, mais si on ne la fait pas dans ce cadre-là, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, quand j'ai écrit Lutter Ensemble, je me le suis vraiment posé de cette façon-là, c'est-à-dire je parle plusieurs langues, j'ai accès à un certain nombre d'espaces militants, je peux poser ces questions-là, je peux en fait faire cette recherche et j'ai envie de la faire d'une façon qui me permette ensuite de rendre ces outils accessibles plus largement. Donc c'est pour ça que pour moi, la recherche, c'est vraiment cette logique de si je suis en capacité de la faire, il y a un enjeu en fait de répartition derrière de ces outils parce que tout le monde n'a pas ni le temps, et qu'en fait... y compris pour les personnes qui sont très très impliquées dans des luttes parce que nécessairement parce qu'elles ont besoin de lutter, elles n'ont pas le temps en fait de faire ça, d'aller chercher qui pense quoi, etc. En tout cas pas de façon très poussée, quoi. Et je pense que du coup c'est important qu'il y ait des personnes qui le fassent, mais toujours avec cette logique de est-ce que je le fais parce que la finalité, c'est que ça serve à des luttes, c'est que ça vienne nourrir justement les personnes qui sont en lutte, qui sont sur le terrain, etc. Ou est-ce que je le fais parce que ça va venir nourrir ma carrière, la reconnaissance sociale dont je bénéficie, etc. quoi. Et bon, moi, je dis ça, j'ai peut-être l'air, en disant ça, d'avoir tout résolu, c'est pas vrai du tout. J'ai pas du tout tout résolu, et je pense qu'y compris, par exemple, le fait d'avoir écrit un livre... Donc le livre que j'ai écrit un livre de 400 pages, que j'ai essayé d'écrire d'une façon qui soit accessible, mais ça reste un livre de 400 pages. Donc c'est limité dans ce que ça peut transmettre et dans la façon dont ça peut être appropriable, quoi.
Et donc on vient de le dire, tu te nourris du terrain et tu te nourris aussi de beaucoup de livres, d'ouvrages, et au cœur de ta réflexion, donc, la convergence des luttes. Mais de ton point de vue, pourquoi lier les combats aujourd'hui est essentiel? Est-ce que ça peut amener à réfléchir sur les enjeux actuels et aussi peut-être à mieux les comprendre?
Moi, je pense qu'avant la question de lier les combats, qui est nécessaire, je ne sais pas du tout pour l'évacuer, mais je pense qu'avant de lier les combats, il faut comprendre, et ça c'est fondamental, de comprendre en quoi les différentes formes de domination et les différentes formes d'oppression se nourrissent les unes les autres et sont articulées. Et je pense que, a fortiori, dans le contexte actuel dans lequel on est, qui est un contexte de fascisation de la société, de montée en puissance énorme de l'extrême droite, on voit bien qu'en fait, des terrains de lutte, et je pourrais citer plusieurs exemples après, quand des luttes ne pensent pas la totalité, en fait, des rapports de domination, et donc très souvent, en fait, ne vont pas aller penser les rapports de domination qui ne les concernent pas et ne vont pas se positionner là-dessus. Je crois que si tu ne penses pas à l'ensemble des rapports de domination et la façon dont ils sont liés les uns aux autres, tu finis par jouer contre ton propre camp. Et je peux donner un exemple très récent, très 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 récent, dans l'exemple du, c'est un exemple lié au féminisme. Le féminisme qui ne pense pas, qui n'a pas pensé les questions de transphobie, on voit qu'aujourd'hui il y a une montée en puissance des féministes dites TERF, donc les féministes qui excluent les personnes trans du féminisme au motif que les personnes trans, que les femmes trans ne sont pas vraiment des femmes, dans leur opinion. Récemment, on a eu une loi qui a été votée hier ou avant-hier contre les thérapies de conversion, et il y a toute une partie de ces féministes qui s'est élevée contre le fait que la loi incluait les thérapies de conversion basées sur le genre, donc des thérapies de conversion destinées aux personnes transgenres pour les forcer à être des personnes cisgenres. Donc voilà, clairement de la torture. Et le fait qu'il y ait toute une partie du féminisme qui ne se soit pas posé ces questions, n'ait pas pensé ce que ça voulait dire, en fait, fait qu'aujourd'hui, on a des féministes TERF qui sont accueillies par Marlène Schiappa, qui sont hyper suivies sur les réseaux sociaux, qui sont perçues comme des, entre guillemets, vraies féministes, qui, de fait, aujourd'hui, ont des connivences objectives avec l'extrême droite. C'est-à-dire, concrètement, voilà, quand elles appellent à cibler des militantes trans, qui est-ce qui va cibler les militantes trans en ligne? C'est des fachos. Et en fait, je pense qu'on peut retrouver cette question-là à plein d'endroits. Je pense qu'on pourrait aussi dire l'incapacité qu'a eu toute une partie de la gauche historique, on va dire, à ne pas penser ou à mettre de côté les questions de racisme en raison de son propre racisme, fait qu'à un moment donné, elle n'est pas en capacité aujourd'hui, puisqu'elle n'a pas fait ce travail, elle n'est pas en capacité aujourd'hui de constituer une réponse substantielle aux attaques de toute l'extrême droite, au discours d'extrême droite, parce qu'elle-même n'a pas compris, en fait, n'a pas fait ce travail. Donc je pense que l'enjeu, c'est pas tant d'être sur tous les fronts, parce que ça, je ne crois pas que ça soit possible. Je pense que c'est important de savoir quel est son front et de le tenir. Mais par contre, c'est de comprendre comment est-ce que le front sur lequel on est, il est intrinsèquement lié à d'autres, et de comprendre comment ces choses-là, comment ces différents rapports de domination sont imbriqués. Et si on ne comprend pas ça, encore une fois, je crois qu'on finit par jouer contre son camp.
Et tu viens de dire qu'il était impossible d'être sur tous les fronts, mais toi, personnellement, comment tu t'es construit dans ton identité de féministe, d'écologiste?
Je crois que tout s'est imposé à moi, en fait. Enfin, tout est arrivé, quoi. J'ai pas... Et par ailleurs, j'ai du mal à me définir. Je vais pas dire, je suis féministe, si, je vais avoir tendance à le dire vraiment dans les contextes où je sens qu'il faut poser un cadre, mais je vais pas dire je suis écologiste, par exemple, j'ai beaucoup de mal à dire ça, ou... Ça s'est imposé à moi, et je pense que ça s'est imposé à moi de façon... Moi, ce qui m'a toujours intéressée, c'est la justice. Concrètement, c'est la justice, mon truc, quoi. Et donc, bah, derrière, la justice au sens la dignité, tout ce qui va avec. Et donc, derrière, à des moments de ma vie, ça s'est posé sur le versant écologiste, à d'autres sur le versant féministe, à d'autres sur le versant du travail, du droit au travail, etc. Et pour moi, toutes ces choses-là vont ensemble. Donc c'est plutôt à quel endroit est-ce que j'ai été dans ma vie et puis qu'est-ce qui se passait à cet endroit-là et puis du coup de m'être positionnée là-dessus. Mais je me suis pas réveillée un matin en me disant je suis féministe donc je vais faire ça ou je suis écologiste donc je vais faire ça. Il y a pas de... Même si je pense qu'il y a des, on peut considérer qu'il y a des luttes qui sont prioritaires dans certains contextes, je pense qu'il faut faire attention à pas les hiérarchiser non plus. Et donc, pour moi, il y a beaucoup de choses qui se valent tout autant les unes les autres, et on a besoin d'être nombreuses et nombreux sur ces différents terrains. Donc,
finalement, si je te comprends bien, voilà, les étiquettes, on peut en finir. Il faut faire sans et justement avancer dans un même but.
Mais surtout, je pense que les étiquettes, elles valent pas grand-chose dans la mesure où dire je suis féministe, ça fait pas de toi une bonne militante féministe ou une militante féministe conséquente. Dire je suis écologiste de la même manière, c'est juste une façon de positionner dans le monde, mais qui est pas forcément toujours très intéressante. Et je pense que par ailleurs, il est important de dire aussi que il y a tout un tas de combats féministes, par exemple, qui ne se disent pas féministes. Tout un tas aussi de combats écologistes qui ne se disent pas écologistes. Donc pour moi, ça vaut pas grand-chose de se définir. La question, c'est plus... pour moi, la question, c'est où est-ce que tu habites, quitter, et qu'est-ce que tu fais de quitter où est-ce que tu habites. Et c'est ça. Et après, je pense que de la même manière que les différents rapports d'oppression se nourrissent les uns les autres, je pense que les différentes luttes se nourrissent les unes les autres aussi. Je pense que quand on crée de la puissance à un endroit, on en donne à d'autres. Et donc, c'est ça qui est important de se rappeler aussi, c'est que les victoires qui peuvent être des victoires sectorielles, en fait, c'est toujours des victoires collectives. Et de la même manière, les échecs qui peuvent être des échecs sectoriels, c'est toujours des échecs collectifs. Ça, c'est un truc qu'on a du mal à penser aussi, mais c'est comment... L'État va attaquer différents secteurs de la société, va attaquer à des points très précis, et que si cet endroit-là perd ou lâche, bah derrière, en fait, c'est plein d'autres qui vont perdre en puissance ou qui vont potentiellement être menacés, et inversement. Donc, ouais.
Et pour finir, j'avais une question sur le mot militantisme. Il peut être parfois lourd à prononcer pour certains et certaines, et surtout, il y a beaucoup d'idées reçues. Est-ce que dans ton combat, tu voudrais aussi faire évoluer l'image de ce mot militantisme ?
Non, pas du tout. C'est pareil, c'est une façon de se définir, et les façons de se définir, ça dit pas grand-chose de ce qu'on est et de ce qu'on fait au final. Donc je pense qu'il y a des personnes qui sont très militantes et très en lutte et qui le diront pas cette façon-là. Et inversement, des personnes qui vont se dire militantes, et par exemple moi, on me catégorise beaucoup comme militante, parce que je pense qu'à un moment donné de ma vie, ça a été vrai. Aujourd'hui, moi-même, je ne me dis pas militante. J'écris des textes et je publie des textes. Je ne considère pas que je sois parmi les personnes qui soient à l'avant des luttes. Et du coup, et pour autant, je travaille à la transformation sociale. Mais je pense que je le fais d'une façon qui m'expose beaucoup moins que plein d'autres personnes. Et voilà, c'est un choix que j'ai fait. Mais du coup, militant, militante, je pense que... S'il y a une chose qui est importante, c'est effectivement de transmettre l'idée que je crois que quoi qu'il en soit dans ce système, on est toujours en lutte, on a besoin d'être en lutte. Donc de transmettre l'idée que c'est pas honteux d'être en lutte, de la même manière que je pense que c'est pas... Pendant très longtemps, moi j'ai grandi, j'ai 35 ans, je suis un peu vieille, quand j'étais adolescente, dire je suis féministe, c'était la honte. Féministe, ça voulait dire... Enfin, à cette époque-là, ça voulait dire tu t'épiles pas les jambes et t'es un peu vénère tout le temps. C'était vraiment ça, et c'était très répandu, cette idée de... Voilà. Donc c'était la honte de dire qu'on était féministe. Bon, bah, sur le militantisme, je pense que c'est la même chose. C'est comment est-ce qu'on assume qu'on est en lutte après, que ça soit le mot militant ou un autre, bah, ça, finalement, c'est pas très important. Et je pense surtout, encore une fois, on est tellement dans une... Je pense que l'individualisme de cette société, et notamment à travers les réseaux sociaux, à travers la façon dont nos vies sont construites, nous pousse toujours plus loin, en fait, à mettre des étiquettes sur qui on est et à penser que c'est ça qui vient donner notre valeur au monde. Et je pense qu'il faut vraiment aller contre ça. On s'en fout, en fait. On s'en fout de ces étiquettes, on s'en fout de ces noms. C'est pas ça, la question. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait.
Tu viens de parler des étiquettes, mais est-ce que tu sais pourquoi le féminisme, le militantisme, encore aujourd'hui en France, c'est aussi un peu tabou pour certains et certaines ?
Moi, je pense que c'est les forces réactionnaires qui sont toujours présentes dans la société, plus ou moins fortes, très fortes en ce moment, et qui construisent justement l'idée que les personnes qui s'opposent à ce système seraient des personnes violentes, déraisonnables. Bah, c'est une façon de protéger le statu quo. Donc, sur le féminisme, comme sur l'idée du militantisme, etc. Et ça, c'est un travail... C'est une guerre, c'est une guerre idéologique qui est permanente, qui a toujours existé. Simplement, on la sent plus ou moins fortement. En ce moment, on la sent très fortement. Et il suffit de prendre l'exemple du féminisme, on voit bien comment le fait que les mouvements féministes aient gagné en puissance ces dernières années entraînent un backlash qui s'appelle Éric Zemmour, qui s'appelle BFM TV, etc. et qui va faire un travail de sape en fait continu, mais qui s'appelle aussi le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui va faire un travail de sape continu pour venir fragiliser en fait ce que ces mouvements arrivent arrive à gagner en rapport de force. Donc on est dans un rapport de force et dans une guerre continue, et du coup c'est la fragilisation en tout cas de ces mots là elle renvoie à cette guerre continue.
Merci beaucoup Juliette Rousseau de nous avoir accordé cet entretien juste avant ta rencontre à la Part des Anges pour présenter l'ouvrage que tu as traduit, Joie militante, construire des luttes en prise avec leur monde, de Carla Bergman et Nick Montgomery.
Merci à toi.